Et passons à la face B de la première cassette. En terminant la question précédente, on dit souvent que on a l'habitude de récolter ce que l'on sème. Or, dans ce cas-ci, ce n'est pas vrai. On récolte ce que l'on n'a pas semé. C'est un autre, judoka, qui a semé, arrose et cultive le mangeons-nous les uns les autres. C'est l'application de cette parabole de celui qui la nuit, alors que l'on ne s'en aperçoit pas, vient semer l'ivraie. La réponse, nous le verrons d'ailleurs dans la deuxième série sur le « Aimons-nous les uns les autres », c'est qu'il nous faut semer un climat favorable au « Aimons-nous les uns les autres ». Et passons à la quatrième et dernière question de la première partie. À qui surtout s'adresse cet enseignement? On dit habituellement « d'une pierre deux coups ». Cette fois, je vais tenter « d'une pierre quatre coups ». D'abord, par cette vigoureuse dénonciation du « mangeons-nous les uns les autres », j'aimerais d'abord aller à la rencontre de cette multitude de mes frères et sœurs qui ont déjà, hélas, été victimes sérieusement atteinte et peut-être gravement marquée par l'une ou l'autre forme de ce cannibalisme en Église. Je veux non seulement sympathiser avec ces personnes, mais je veux leur dire qu'ils et elles ont raison d'avoir été déçus, irrités, scandalisés ou blessés par de semblables comportements indignes de chrétiens ou de chrétiennes, d'hommes ou de femmes dits d'Église. Et en présence du Seigneur et de l'Église, je veux demander pardon par procuration à ces personnes victimes au nom de ces hommes et femmes dits d'Église qui les ont ainsi bousculés et violentés. Je veux enfin, ceci dit ou fait, les exhorter toutefois à pardonner eux et elles aussi, à ceux qui les ont ainsi offensés, persécutés ou écrasés. Et si dur que cela puisse être, si illogique ou lâche de prime abord humain que cela puisse sembler, le Christ non seulement nous le demande quand il dit « Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent » et pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois, mais le même Christ nous a obtenu toutes les grâces et les forces requises pour pardonner, et celles-ci sont disponibles à qui les réclame. En un deuxième coup, je veux atteindre dans cet enseignement tous ceux et celles qui vont découvrir, au fur et à mesure où cet enseignement va progresser, qu'ils ou qu'elles ont malheureusement erré de la sorte, ont succombé sans le savoir parfois au « mangeons-nous », ont bousculé, diffamé, trahi, écrasé, mal jugé ou condamné les autres. Je veux leur dire fraternellement, dans l'amour et la paix du Seigneur, que s'ils ont ou s'ils ont le moindre repentir, et le plus petit réflexe d'humilité, le Dieu de l'infinie miséricorde, leur ouvre sur le champ, tout grand son cœur et sa puissance. Et déjà, c'est le retour en eux, la libération et la guérison qui leur sont offerts en héritage. Qu'ils n'en ratent donc pas l'occasion. Le troisième coup, lui, vient pour louer et remercier de tout cœur tous ces frères et sœurs qui, en Église et dans le monde, malgré ce climat pollué et polluant du « mangeons-nous les uns les autres », ont su tenir le coup, résister aux tentations fortes contre la vérité, la charité et la liberté. Bref, je veux avec vous admirer ceux et celles, ils sont très nombreux, qui sont de vrais pratiquants du « aimons-nous les uns les autres » et donc d'authentiques témoins du Christ et de son message. Enfin, et d'une même pierre, j'aimerais atteindre un quatrième et dernier coup, nous interpeller tous, vous et moi. Qui que nous soyons, où que nous soyons, en titre ou en fonction dans l'Église, à nous engager sérieusement à sortir l'Église de ce scandale des scandales et à y faire régner en roi et maître l'amour de Dieu et du prochain. Bref, à concourir de tout notre être à la revalorisation et à la sauvegarde en tout et partout de la vérité, de la charité et de la liberté qui viennent de lui et sont indispensables à la paix intérieure et extérieure de l'Église. Passons maintenant à la deuxième partie. Nous allons, dans cette deuxième partie, étudier quatre syndromes qui menacent l'ensemble des fidèles en Église. Les laïcs, les évêques, religieux, religieuses et les prêtres. C'est à dessein que je vais utiliser le mot « syndrome » au lieu de « comportement ». Vous savez comme moi, au dictionnaire, on définit « syndrome » en médecine comme une association de plusieurs symptômes, signes ou anomalies constituant une entité clinique reconnaissable, soit par l'uniformité des manifestations morbides, soit par le fait qu'elle traduit l'atteinte d'un organe ou d'un système bien défini. Or, les travers du « mangeons-nous les uns les autres en Église » atteignent tous un même résultat morbide. Ils détruisent, à coup sûr, l'amour fraternel et communautaire. Et vu sous l'angle des motivations variées qui les sous-tendent, même plus ou moins consciemment, on peut regrouper ces travers en 8 syndromes distincts. Donc, pour nous, pour les fins de cet enseignement, le mot « syndrome » signifiera un ensemble de comportements, de procédés, d'attitudes, de paroles et de gestes facilement associables parce qu'ils révèlent une même mentalité qui les anime. 8 syndromes sur au moins une trentaine possibles. J'ai voulu choisir les 8 qui ont monté en tête de liste dans le discernement spirituel. Ce sont les principaux qui, à mon avis, résument et expliquent à 90% la pollution du climat à l'origine du « mangeons-nous les uns les autres ». À sa triste manière, on va le voir, chacun de ces 8 syndromes est anticlimatique. D'une certaine manière, il détruit la vérité, la charité ou la liberté en particulier. Et je redis ici pour insister à nouveau, je l'affirme à nouveau, le « mangeons-nous les uns les autres » n'est pas voulu ou recherché en tant que tel, sauf dans des rares cas où Judoka est lui-même directement à l'œuvre. Le « mangeons-nous » est la conséquence grave et presque inévitable d'un climat vicié et perturbé où les 3 conditions « vérité, charité et liberté » ne sont pas épanouies à cause d'un de ces 8 syndromes dont nous allons parler. Chacun de ces 8 syndromes vient non seulement troubler occasionnellement le climat de vérité, de charité et de liberté, mais plus encore, le syndrome crée des pluies acides, nouvelles, des hausses brusques de température, des tornades subites, des ouragans, des orages dans les cœurs et les esprits, qui, à leur tour, compromettent souvent définitivement et à la longue ce climat souhaité et souhaitable de vie et de travail en Église. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quatre syndromes qui menacent l'ensemble du peuple de Dieu, les fidèles en général, donc incluant dans les fidèles les évêques, les prêtres, les laïcs, religieux, religieuses, consacrés, toutes les personnes vivant en Église. On abordera le syndrome de la diffamation, le syndrome de la délation, le syndrome de la mère debout et le syndrome de la zizanie. Sur chaque syndrome, on procédera en deux étapes, d'abord la description et les conséquences du syndrome, et rapidement une évaluation et au besoin quelques remèdes pour les combattre. Le syndrome de la diffamation. Commençons d'abord par rappeler, et ça servira pour tout l'enseignement qui va suivre, les autres syndromes également, les éléments de base de la morale chrétienne traditionnelle. Vous savez qu'en partant, il y a le huitième commandement de Dieu, « Faux témoignage ne dira ni mentira aucunement ». Le huitième commandement de Dieu défend donc en premier lieu le faux témoignage contre le prochain et protège ce qu'on appelle la vertu de sincérité. Mais on sait qu'on peut violer cette vertu de la sincérité, soit en ne disant pas la vérité, soit en la disant d'une manière défendue. Donc, entre dans ce syndrome dit de la diffamation du prochain, aussi bien le mensonge et la calomnie, qui ne disent pas la vérité, que la médisance, les injures, le jugement téméraire, la violation du secret, qui disent la vérité, mais de façon défendue. Parlons de la violation d'un secret, c'est une chose qui doit rester cachée. Et il y a trois sortes de secrets. Il y a le secret naturel, que le droit naturel prescrit de garder. Il y a le secret promis, où on s'est engagé, après avoir pris connaissance de la vérité, on s'engage à ne pas le livrer. Et le secret confié, quand la connaissance de la chose n'a été obtenue qu'après avoir promis le secret. On promet le secret, ça. Eh bien, on imagine que le secret confié revêt une particulière gravité. Même à la demande d'un supérieur où on n'a pas le droit de révéler un tel secret, à moins d'avoir des motifs graves de le faire. Mais encore, faut-il respecter ce que Jésus a dit, « Si ton frère a péché, va d'abord le voir seul à seul. » Le jugement téméraire, vous le savez, consiste à admettre fermement et sans raison suffisante, comme étant vrai, un défaut moral chez le prochain. C'est une faute également contre la justice. Qu'est-ce que nous enseigne la morale chrétienne sur la réputation? On dit que la réputation, c'est l'opinion publique concernant l'excellence d'une personne. Et tout le monde a le droit à sa réputation, même les morts et les personnes morales. On a un droit absolu à une réputation vraie, et personne n'a le droit de la violer, cette réputation. D'ailleurs, pour les gens d'Église, le code de droit canonique, le canon 220 nous dit ceci, « Il n'est permis à personne en Église de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui. » Donc, la violation de la réputation est injuste, toujours quand il s'agit d'une calomnie, ainsi que dans les cas où la manifestation de faute fondée ou partiellement fondée ou mal interprétée ne sert aucunement l'intérêt général ou particulier, comme dans le cas de la médisance. La violation injuste de la réputation d'autrui est grave. Elle pèche contre la justice, qu'il s'agisse de médisance ou de calomnie. Et on participe à cette culpabilité, même seulement en écoutant et en accueillant une médisance et une calomnie, si en procédant à l'écoute, on accrédite dans son cœur l'accusation, on encourage ainsi le diffamateur, on s'en réjouit, on n'empêche pas la violation de la réputation du prochain alors qu'on le pourrait, ou qu'on répète soi-même ses accusations. Enfin, la réparation du tort causé est un devoir de justice. Il s'étend à la réparation du tort causé à la réputation et doit lui être proportionnel et doit se faire devant tous ceux et celles qui ont eu connaissance de la calomnie ou de la médisance. Voilà donc rappelé sommairement les principes de base de la morale chrétienne concernant le domaine qui nous concerne aujourd'hui. Maintenant, arrivons-en à la situation de fait à l'heure actuelle. Bien, mes chers amis, en Église, c'est triste de le dire et de s'en rendre compte, la diffamation a un rythme de croisière autorisé en certains milieux d'Église, beaucoup plus rapide que l'Esprit-Saint n'a réussi à obtenir pour lui-même jusqu'ici, en ces mêmes milieux. La transmission de la diffamation va en s'accélérant, souvent sans entrave dans l'Église, alors qu'en mains endroits de cette même Église, la transmission de l'Esprit-Saint est souvent contrôlée, freinée, soumise à de nombreuses formalités de vérification, de dédouanement, d'enquête, etc. Pour calomnier ou médire, plusieurs, même en Église, se donnent 36 bonnes raisons, du moins qu'ils croient bonnes. Pour justifier une calomnie, par exemple, on va dire « Ah, bien, ce n'est qu'une hypothèse, c'est une interprétation, la rumeur veut, je fais une extrapolation, j'en suis pas sûr. » Pour se permettre la médisance, on dira « Bien, écoutez, je me permets de vous dire ça, mais c'est pour vous informer, vous mettre en garde, vous prévenir, protéger l'Église, la communauté, la bonne œuvre, l'institution, même pour venir en aide à l'intéressé qu'on coule. » Quant au devoir de réparer, bah, ça c'est vieux jeu. Ça va s'arranger avec le temps. D'autres l'ont répété, alors moi je suis pas pire que les autres. Ça ne s'enseigne plus et, comme vous le savez, les confesseurs ne sont plus là pour le rappeler. Alors, je reviens sur ce point-là, la question d'accueillir et de faire sienne une diffamation. Le simple fait d'accueillir et de faire sienne une diffamation, au point que ça fait changer son opinion ou son comportement envers la personne diffamée, sans s'être donné la peine de bien vérifier à la source, avec un petit S, puis à la source, avec un grand S, c'est-à-dire auprès de l'Esprit du Seigneur, ça suppose qu'on a l'habitude de communiquer avec le bureau chef, ça constitue également une faute morale, dont la gravité varie bien entendu selon la nature de la diffamation et des conditions de la faute. C'est la même chose pour la transmission de la diffamation. À chaque fois que je transmets à un autre une diffamation grave, que je ne veux ni ne peux vérifier, même si je mets des précautions oratoires, préalables ou subséquentes, en indiquant que ça vient d'un autre, j'accrédite cette diffamation, du poids même de ma fonction, de ma réputation, de mon titre. Et c'est donc extrêmement grave d'être ainsi complice. D'ailleurs, ce phénomène de la retransmission de la diffamation crée peu à peu toute une confusion, car les vrais diffamateurs qui sont à l'origine de la diffamation sont rapidement perdus de vue. Le relais se fait d'une personne à une autre, et ces personnes non renseignées, incapables même de vérifier, entrent dans le circuit et se font à leur tour citer ici et là comme ayant dit que. Et lentement et sûrement, la diffamation s'accrédite de plus en plus parce que Monseigneur un tel a dit cela, le père ou la mère générale une telle a répété la chose, tel laïc important a prêté attention à cela et l'a même répété. Et ça circule, et le plus comique, pour ne pas dire le plus tragique de tout ce circuit, c'est qu'après un certain temps, ces participants, sans raison ou sans responsabilité, sont entrés dans le circuit, ces promoteurs en relais non vérifiés, entendent eux-mêmes les mêmes rumeurs leur revenir, souvent amplifiées et déformées, Et alors, ayant oublié qu'un jour ils sont entrés dans le circuit, ils se croient confirmés cette fois-ci en entendant ce qu'on dit. Et à nouveau entrent en scène et renchérissent en une seconde ronde, etc., etc. Que penser de tout cela, mes amis? Ben, est-il nécessaire même de le rappeler? Non seulement le Seigneur réprouve sévèrement tout cela, mais la société, dans son gros bon sens naturel, dénonce spontanément tout ce qui est diffamatoire. Et d'ailleurs, on le sait, la Bible et les livres de maximes, proverbes et pensées regorgent de textes montrant l'ignominie de tels comportements. C'est Jésus, on le retrouve dans Matthieu 12, 36, qui dit « Les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole sans fondement ou vaine qu'ils auront dite, car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. » Dans Luc 6, 37, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez, vous serez acquittés. » Luc 6, 41. « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu ne la remarques pas. » Jean 7, 24. « Cessez de juger selon l'apparence, mais jugez d'après le fond des choses, précise encore Jésus. » Et dans le livre « Le Siracide », « Beaucoup ont péri par le tranchant de l'épée, mais pas autant que ceux qui ont péri par la langue. » Dans l'Épître de Saint Jacques, « Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère médit d'une loi et juge une loi. Mais si tu juges une loi, tu agis en juge et non en réalisateur de la loi. » Or, un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi, pour juger le prochain? Vous avez déjà sans doute entendu cette pensée espagnole. La parole du calomniateur est comme le charbon. Quand elle ne brûle pas, elle noircit. Ou cette expression indienne. Tu peux saisir à temps la main qui va te frapper, mais comment saisiras-tu la langue du calomniateur? Ou encore, celui qui médit auprès de toi médira de toi. Passons, si vous le voulez bien, maintenant au deuxième syndrome, le syndrome de la délation. Le mot délateur ou délation, selon le dictionnaire, vient ajouter deux caractéristiques de plus à la diffamation. À savoir que la délation, plus que la diffamation, entraîne une démarche de dénonciation d'abord, puis une dénonciation qui est toujours faite pour une motivation méprisable. Je veux dire honteux, bas, vil. Même si elle est camouflée ou enveloppée de soi-disant bons motifs. En effet, le délateur agit toujours, quoi qu'il pense, prétende ou dise, pour des motifs méprisables, car sa manière de procéder est viciée intentionnellement dès le point de départ. En effet, il va délibérément à l'encontre du conseil clair et net, bien connu, donné par Jésus, qu'on retrouve dans Matthieu 18, 15 à 17. « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et parle-lui seul à seul d'abord. Si ça ne va pas, reviens avec des témoins. Et si ça ne va pas seulement en troisième lieu et dernière étape, et Jésus le précise, on doit aller le dénoncer en Église et à l'autorité, seulement si les deux premières étapes ont échoué, quand tout a été essayé auprès de ce frère et sœur en direct. Or, le délateur fait fi de cette demande de Jésus. Il ne peut donc pas prétendre sauver l'Église alors qu'il va à l'encontre du désir de son chef. Il procède en outre à l'insu de la personne intéressée. Il agit dans son dos et souvent sous le couvert d'une protection, car il exige de ne pas être identifié comme condition de sa dénonciation, et parfois même dans l'anonymat, par lettre anonyme ou personne interposée. Il sait donc, le délateur, qu'en agissant ainsi, il blesse, humilie et accuse à sa guise son frère et sa sœur, qui se trouvent dans l'impossibilité de se défendre, ignorant même que la dénonciation est en cours dans les coulisses. La première manche et la première mauvaise impression à créer contre son frère et sœur est donc entièrement entre les mains du délateur et de la délatrice. En procédant ainsi, le délateur révèle qu'il n'a sûrement pas en vue le bien et le bonheur de son frère et de sa sœur, comme tout chrétien devrait l'avoir, ni même son amendement dans l'amour et la miséricorde, car son procédé suscite au contraire le malaise et le chagrin. Son procédé indique plutôt qu'il désire que l'autre soit mis en accusation, jugé et condamné, donc humilié et réprouvé. Or, seule la haine, l'instinct de vengeance, l'agressivité et la méchanceté peuvent déclencher et activer un tel comportement. Il y a divers styles ou types de délation, celle où la délation se fait officiellement auprès de l'autorité, ou celle qui se fait auprès d'un groupe, d'une communauté, d'un mouvement, auprès de confrères, consoeurs, collègues ou associés. Et ces diverses délations se font soit oralement, soit par écrit, soit en s'identifiant ou non, soit directement ou par personne interposée. Mes amis, les dénonciations, les délations en Église sont hélas choses non seulement courantes, mais de façon habituelle, en beaucoup de milieux hiérarchiques, hélas, souvent facilité et parfois même encouragé. En effet, on leur a ouvert largement la porte et beaucoup s'y faufilent, puisque cela ne semble non seulement susciter aucune résistance ou opposition auprès de certaines autorités, mais sans même accueillir de bon gré, sans remontrance ni exigence. Les gens en Église, quand ils ne sont pas contents de ce que les évêques sont ou font, au lieu d'avoir le cran d'aller le leur dire ou de leur écrire directement, respectueusement, ils les dénoncent à Rome ou à l'Annonciature ou dans les journaux. Les gens n'aiment pas ce que tel prêtre ou dit ou fait ou même vit. Vite, on accourt, on les dénonce à l'évêché ou à l'archevêché. Et là encore, la dénonciation et la délation sont accueillies sans trop d'hésitation. Voyez la petite distinction. Quand les évêques sont eux-mêmes victimes des regrettables délations ou dénonciations à Rome, entre autres, ils trouvent cela infiniment regrettable. Et le président de notre épiscopat au Canada a rappelé les fidèles à l'ordre sur ce point au cours de la dernière année. Mais quand les victimes sont leurs prêtres, leurs fidèles, laïcs ou religieux ou religieuses, cela ne semble plus avoir le même caractère odieux. Et facilement, ils cèdent à la tentation de donner suite à ce mode pourtant lâche, honteux, pour les autres, tout autant que pour eux-mêmes. Jésus y fait d'ailleurs maintes fois allusion dans sa sortie mémorable contre les pharisiens, à laquelle Matthieu consacre tout le chapitre 23 de son évangile. Et je cite, « Malheureux scribes et pharisiens hypocrites, vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, car tout en massacrant les gens de leur temps, ils édifiaient des sortes de monuments expiatoires à la mémoire des grands ancêtres persécutés par le peuple. Car on peut bien l'imaginer, de nos jours encore, les prophètes sont une cible privilégiée des délateurs. Et si on ne réussit pas à les faire condamner en première instance, au niveau local, paroissial, diocésain ou communautaire, les pharisiens d'aujourd'hui, nos pros en délation et dénonciation, que Jésus appelle au verset 33 du même chapitre, les serpents et engeances de vipères, vont en appel, car comme leur précise Jésus au verset suivant 24, je cite, « Vous voulez les tuer, les mettre en croix, les flageller et les pourchasser de ville en ville. » Fin de la citation. De nos jours, s'ils ne réussissent pas sur place, ils portent alors leur dénonciation à Rome. C'est ce que d'ailleurs nos délateurs tentent, n'ayant pu réussir à faire couler le sang sur place. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, lorsqu'on parlera des moyens qui s'imposent pour contrecarrer ces divers syndromes, qui nous conduisent au « mangeons-nous les uns les autres en Église ». Mais je dis immédiatement qu'une autorité qui se veut ou se voudrait le moindrement responsable, adulte et vraiment chrétienne, ne peut ni ne doit accueillir ou collaborer ou donner suite à la délation ou à la dénonciation si le plaignant ou la plaignante n'a pas d'abord respecté les trois étapes du modus procedendi précisé par le Seigneur. Prêtez l'oreille, donnez suite à une délation ou dénonciation qui n'a pas franchi dans l'ordre les deux étapes antérieures, du seul à seul avec le frère en question, avec une insistance, avec quelques témoins. Prêter l'oreille à une telle délation, c'est court-circuiter tout le plan, rempli de psychologie et de grâce, de lumière et de force, que le Seigneur a daigné prévoir pour régler nos inévitables et fréquents malentendus, imbroglios et tensions même en Église. La délation, est-il même besoin de le préciser, est un acte répréhensible, grave et lâche et nuisible à l'Église. La Bible nous dépeint bien ces types d'hommes et de femmes. Au psaume 63, et je cite, « Dieu, écoute ma plainte, préserve ma vie d'un ennemi terrifiant. Cache-moi loin du complot des scélérats, loin des malfaisants qui se concertent. Ils ont affûté leur langue comme une épée. Ils ont ajusté leurs flèches, leurs paroles venimeuses, pour tirer en cachette sur un homme intègre. Ils tirent soudain sans rien craindre. Ils se forgent une parole maligne. Ils calculent pour dissimuler des pièges. Ils disent, qui s'en apercevra? Ils combinent des crimes. « Nous avons bien combiné notre affaire, pense-t-il. Au fond de l'homme, le cœur est impénétrable. » Et la suite du même psaume 63 nous dit quel sort Dieu leur réserve, et je cite. « Mais Dieu leur a tiré dessus. Soudain, voici la flèche. Ce sont leurs propres coups. Leur langue s'est retournée contre eux. En les voyant, chacun hoche la tête, tout homme est saisi de crainte, il proclame ce que Dieu a fait, et de cet acte, il tire la leçon. » Et comme on le sait, cet instinct délateur remonte à Adam et Ève, quand ils ont commencé immédiatement à s'accuser l'un l'autre à la question du Père. Tout délateur est en fait, veut pas, un mini-Judas qui s'ignore. C'est-à-dire quelqu'un qui, comme le grand Judas, trahit et livre un autre, pour des motifs méprisables, non avoués ou peu avouables. Ces motifs peu avouables, dans 75% des cas, sont généralement les mêmes qui ont poussé le grand Judas, je devrais plutôt dire le premier Judas, à dénoncer Jésus. Ça a été son ambition personnelle. Homme instruit, intelligent, Judas avait rêvé d'avoir beaucoup d'influence et de place auprès de Jésus. Bref, il voulait bien se placer les pieds, emmener large à l'intérieur de ce cercle de disciples. Il voulait devenir l'éminence grise de Jésus. Et comme il n'a été ni appelé à ce rôle, ni traité avec plus de considération à cause de ses capacités humaines spéciales, il a décidé d'aller se placer les pieds en dehors du cercle, auprès des gens influents du temps et du milieu, les grands prêtres et les docteurs de l'époque. Je le redis, c'est le même scénario classique des traîtres, des délateurs, des transfuges, des Judas modernes. S'ils ne peuvent être éminence grise sur place, ils optent pour devenir de grise éminence ailleurs. Ce qu'ils cherchent en fin de compte, c'est plus ou moins conscient, sans doute, c'est leur prestige, la vedette, se distinguer, peu importe la cause et à quel prix. Dans ces livres de maximes et de pensées, on lit ceci, dans le livre des Proverbes. « Faute de bois, le feu s'éteint. Éloignez le rapporteur et la querelle s'apaise. » Une réflexion grecque. Le sycophante, c'est-à-dire le délateur, est la bête qui a la morsure la plus terrible. Un proverbe suédois. On ne peut mieux définir le délateur que de lui donner le nom de sentinelle du diable. Passons, si vous le voulez, au troisième syndrome, celui de la mère debout. Qu'est-ce qui spécifie au juste ce troisième syndrome? Disons d'abord qu'à l'origine d'une mère debout, on retrouve toujours soit une diffamation, calomnie ou médisance, soit une délation, ou soit les deux à la fois, ce qui est le plus courant. Donc, à ces graves manquements de diffamation et de délation viennent s'ajouter deux choses. Une prolifération de rumeurs dans le public, et parfois à l'état d'épidémie. Deuxièmement, ayant pour but évident de salir, de noircir ou éclabousser la réputation d'une personne, d'un groupe ou d'une institution en particulier, auprès du plus grand nombre possible de personnes, même de personnes nullement concernées ni même intéressé. Donc la mère debout, c'est la recherche d'une large diffusion pour un dommage plus considérable à la réputation de la ou des victimes visées. Notons que la contagion est d'autant plus rapide qu'elle est habituellement recherchée, encouragée, orchestrée au point de départ, et qu'elle est souvent entretenue ou attisée par la suite. Et que, si l'autorité ecclésiastique ou religieuse tombe elle-même dans le circuit empoisonné, volontairement ou involontairement, l'épidémie s'accélère, car a priori, les gens croient que l'autorité est bien au courant et a bien discerné, donc est d'accord avec cette diffamation. Et quand je dis volontairement, je veux dire que certaines autorités ne sont pas trop fâchées que cette mésaventure implique un tel ou une telle. À la vérité, le plus ou moins grand succès du syndrome des mères debout dépend également de deux autres choses, le degré de maturité des auditeurs. Sont-ils des gens libres et sérieux, habitués à se faire des idées par eux-mêmes, ou sont-ils plutôt des suiveurs, des suiveux, des gens aisément dupes, des gobe-mouches, des crédules qui croient tout ce qu'ils entendent? Également, ça dépend du degré de vraie vie spirituelle des auditeurs et auditrices. Sont-ils des gens avec des réflexes de chrétiens, de chrétiennes, vraiment aptes à se prémunir, à se défendre, à combattre même tout ce qui est diffamation, jugement, condamnation du prochain? Ont-ils un bon système immunitaire spirituel capable de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, le juste de l'injuste? Or, actuellement, c'est bien loin d'être le cas. À cause de notre éducation chrétienne déficiente et d'un manque de leadership spirituel en Église, notre peuple de fidèles n'a vraiment pas encore acquis à la vérité la maturité individuelle et collective, la liberté et l'autonomie spirituelle vraie, le sens de la charité et de la vérité qui sème et se recherche, et pourrait les protéger par conséquent contre ces mers debout. Trop, beaucoup trop sont encore non seulement incapables de se défendre devant les moindres rumeurs, bonnes ou mauvaises, non seulement ne sont pas portés à les vérifier avant d'y adhérer, mais je dirais même que beaucoup sont friands de nos jours, comme dans le monde, de potins, de cancans, de commérages, de rumeurs croustillantes. Ils en cherchent et ils en créent aisément. Mes chers amis, en passant, j'aimerais ici vous partager mon expérience personnelle sur ce syndrome. Toute ma vie, j'ai combattu avec la plus grande spontanéité et vivacité, tant dans la société que dans l'Église, ce fléau des ignobles mères debout. J'ai toujours plongé au secours de leurs innombrables victimes, sans hésitation et sans discrimination, dans tous les cas portés à ma connaissance. Je n'exagère pas, mes frères et sœurs, en vous disant qu'au cours de ma vie jusqu'ici, je suis venu à la rescousse, à mes risques et dépens, d'au moins 350 à 400 de mes frères et sœurs menacés d'être engloutis par des mers debout, malicieusement lancés dans le but de les enliser à jamais. J'avais 9 ans à peine, quand pour la première fois, au couvent des religieuses où j'étudiais, j'ai accouru au secours d'un compagnon de classe qu'on voulait noircir à volonté dans le but d'avoir de bons prétextes pour le congédier et éliminer du paysage ses parents dont on redoutait un peu trop le franc-parler et courage. Et on me fait signe que le temps est écoulé. Nous poursuivrons cette réflexion et ce partage dans la deuxième cassette.